Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois les deux fondatrices de Moods, une marque de culottes menstruelles éthique, engagée et stylée. Pour l'anecdote, j'ai rencontré Caroline, une des deux fondatrices qu'on va entendre dans cet épisode, à Première Vision, qui est le salon qui réunit tous les fournisseurs et façonniers de l'industrie textile, en septembre dernier. On cherchait toutes les deux des matières pour le développement de nos sous-vêtements, et Caroline me suivait sur Instagram, et on a donc échangé ensemble. Je suis vraiment contente d'avoir eu l'occasion de découvrir son parcours et celui de Claire dans cet épisode, car je trouve que ça permet de beaucoup mieux comprendre la mission et la raison d'être d'une marque que l'on ressent vraiment dans cette conversation. Claire et Caroline ont chacune eu des débuts de carrière conformes à ce qu'on attendait d'elles, dans des boîtes renommées avec des postes à haute responsabilité, et pourtant elles se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas épanouies et même qu'elles n'étaient pas heureuses. Que représente la renommée, un salaire et des responsabilités si on ne sait pas pourquoi on se lève le matin? Alors Claire et Caroline ont décidé de résoudre un problème auquel elles faisaient tous les deux face. Trouver des protections hygiéniques éthiques, confortables et stylées. Elles nous partagent dans cet épisode comment elles y sont arrivées. Et avant que j'oublie, Claire et Caroline ont eu la gentillesse de proposer un code de réduction à toutes les auditrices d'InPower. Donc si vous voulez tester leur culotte de règles, vous avez moins 10% sur tout le site de Moods avec le code MYBETTERSELF. Si cet épisode vous plaît, pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser et de laisser un petit commentaire sur Apple Podcasts si vous appréciez beaucoup InPower. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Claire et Caroline. Bah écoutez, bonjour les filles, bonjour Claire et bonjour Caroline, bienvenue sur InPower. Je suis très contente de vous recevoir, même si on peut pas se voir en vrai, vu qu'on est toujours dans cette période bizarre de confinement. Heureusement, on peut quand même se parler et je peux quand même entendre des parcours inspirants d'entrepreneurs. Donc, écoutez, les filles, si vous pouvez commencer par nous dire qui vous êtes, voilà, un peu plus sur vous et de vous présenter de la façon dont vous préférez.
Alors, moi, je m'appelle Caroline Briand, j'ai 30 ans. J'ai mis beaucoup de temps à savoir ce que je ferais un peu de ma vie, dans le sens où j'étais plutôt bonne élève, donc à la fin de mon lycée, on m'a dit offre, tu vois, c'est une classe préparatoire, donc j'ai fait une classe prépa. Après j'ai pas du tout aimé la classe prépa, je trouvais ça hyper enrichissant d'un point de vue intellectuel, mais je trouvais ça vraiment trop limitant en termes de liberté. J'ai plus ou moins arrêté, je suis partie en fac de droit, j'ai fait un master de droit et là encore je me suis dit voilà, c'est intéressant intellectuellement, je fais du droit international, etc. Je trouvais ça hyper cool, mais je me disais c'est pas du tout assez créatif et je me voyais absolument pas évoluer en cabinet d'avocat ou en tant que juriste. Donc j'ai fait une école de commerce à Lyon en me disant qu'en gros, pendant 2-3 ans, je pourrais voyager, m'éclater et à la fin, faire quelque chose j'étais sûre d'avoir un travail, quoi. Donc vraiment sans grande conviction, mais plutôt par opportunisme de voyage. Et donc j'ai commencé à faire des stages un peu partout. J'ai fait un stage en Espagne, après je suis partie en Chine. Et en fait, pendant ces stages-là, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, c'était effectivement... la créativité, mais aussi le côté stratégique. Donc, je suis partie en stage de fin d'études en planning strat, donc le planning stratégique en agence de publicité, donc dans de grosses agences parisiennes, et où je suis restée 3-4 ans. Et en fait, pendant ces années-là, il y a eu ce que tout le monde sait maintenant, le scandale sur les tampons. Et à titre perso, je me suis vraiment dit, c'est assez bizarre parce que je me suis dit, ok, pourquoi nous, les femmes, on a laissé faire ça? Comment ça se fait qu'on ne soit pas intéressé à ce qu'on mettait dans notre vagin, etc. Donc j'ai commencé à me renseigner, donc là on était en 2017, et entre-temps, l'idée a fait son chemin, etc. Et en 2018, je teste les culottes menstruelles, et je trouve ça, à titre perso, une grande révolution. Je me suis dit, voilà, ça a changé ma vie. Et à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de marques, et surtout, moi, j'avais envie de donner, entre guillemets, tout le monde disait, ouais, les règles, ça doit être normal, mais ça restait encore des modèles hyper basiques, etc. Et moi, je voulais vraiment faire une marque de lingerie classique, entre guillemets, d'une marque de mode. J'étais encore en agence, j'ai commencé à travailler sur le projet, et en octobre 2018, je claque tout, et je crée Moods. Voilà.
Ok. J'adore la chute qui nous laisse un peu pantois. On a hâte d'en savoir plus. Juste avant d'en venir à Claire aussi, je me demande juste, en écoutant ce que tu nous as dit sur ton parcours, j'ai un peu l'impression que tu t'es trouvée au final, pas forcément en travaillant, et j'ai l'impression que c'est une réalité que j'entends pas mal autour de moi, c'est en fait en voyageant ou en faisant un truc hyper différent qu'on se rend compte un peu ce qu'on aime faire ou ce pourquoi on est fait. Est-ce que toi aussi, tu as eu ce sentiment? Et peut-être, qu'est-ce qui t'a aidé à y voir plus clair? Et avec le recul, tu vois, tu t'es dit, j'aurais bien aimé peut-être savoir ça avant pour comprendre plus rapidement ce pourquoi j'étais faite.
Ouais, moi, il y a un truc que j'ai toujours en tête, c'est que j'étais en première. Donc moi, je viens de Picardie, j'étais pas tout dans des grands lycées parisiens, je viens vraiment... entre guillemets, de la campagne profonde française. Et je me souviens, j'avais ma meilleure pote, elle voulait être prof des écoles. Et ma prof de français lui disait, ouais, toi, c'est bien, on sait ce que tu vas faire, mais alors Caroline, on sait pas du tout ce qu'elle va faire, quoi. Et à cette époque-là, ça m'avait mis un peu la pression, parce qu'effectivement, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et ouais, c'est vraiment... je suis partie à l'étranger, j'ai fait pas mal de rencontres, j'ai bossé pour l'association. Et au final, je pense que ces expériences-là qui m'ont permis après de m'enrichir aussi personnellement, parce que quand tu pars à l'étranger, forcément, t'es toute seule. Quand t'es en asso, tu fais un peu des trucs de... Je vais faire un anglicisme, mais from scratch, on se débrouille, quoi. Et c'est ces valeurs-là qui m'ont vraiment plu. Et après, en fait, j'étais en agence de communication et je travaillais pour des grands groupes. Je me disais, c'est pas possible, quoi. Enfin, je peux pas passer ma vie à faire ce genre de travail. Et donc, c'est ça aussi qui m'a aidée. Je pense que il y a des gens qui se réveillent le matin qui disent, ouais, je vais faire ça. Moi, je me suis jamais dit que j'allais monter une marque de culottes de règles. Absolument pas. En revanche, c'est vraiment au fil du temps, et c'est ça qui est hyper cool, je trouve.
Ouais, c'est en fait, ça a été un ressenti personnel et c'est venu d'un besoin perso, et je pense que c'est ce qui fait les plus belles histoires, parce que c'est pas t'as pas cherché une idée de boîte, quoi. Ça t'est un peu tombé dessus.
Ouais, grave, c'est ça.
Trop cool. Bon, écoute, Claire, à toi maintenant de nous en dire un peu plus sur qui tu es et sur comment t'en es arrivée à co-créer Moods avec Caroline.
Ouais, tout à fait. Du coup, moi, c'est Claire, j'ai 36 ans. Moi, je suis franco-américaine, mais je suis née, j'ai grandi à Paris. En termes d'études, moi, je suis ingénieure de formation. J'ai fait mon école à Centrale, j'étais à Lille. Et alors à l'époque, moi pareil, moi j'ai fait les études d'ingénieur un petit peu parce que c'était la voie royale, comme si je reprends une expression de ma mère, quand on n'a pas forcément beaucoup de moyens mais qu'on veut finalement se fermer aucune porte. Et je me suis retrouvée dans ma première partie de vie professionnelle, un peu par hasard finalement, à aller bosser dans la finance. Et parce que moi, ma première partie de vie, en réalité, j'ai bossé entre 2007 et 2015 chez Goldman Sachs. La première partie, j'ai passé 4 ans à Londres, et ensuite j'ai été mutée au bureau de New York. Donc là, moi, pendant toutes ces années-là, mon métier, c'était vraiment d'être une spécialiste en stratégie de levée de fonds. Mes clients, c'était les hedge funds basés à Tokyo, Hong Kong, Singapour, et qui cherchaient à lever du capital en Europe. Et ensuite, j'ai étendu un peu mon domaine, puisque je faisais ça pour l'ensemble des clients internationaux de Goldman Sachs, qui cherchaient à lever du capital aux États-Unis. Alors en plus, pour mettre ça un peu dans le contexte de 2008, hein, on a tous vu, enfin on sait la crise, ce qui s'est passé. Moi, j'ai démarré, j'étais petite juju sur le desk. 2 semaines après, il y a les man qui plantent. Bon, donc ça a été des années... ça a été des années assez fascinantes d'un point de vue expérience, business... professionnel, enfin vraiment c'était des années hyper formatrices. Enfin j'ai eu l'occasion de bosser avec dans un milieu ultra exigeant. Mes clients, mes boss, c'était les gens un peu les plus puissants de la planète. Donc j'en ai tiré énormément en termes de skills, de prise de responsabilité sur plein d'aspects. Mais ce qui ne collait pas fondamentalement, c'était je me réveillais le matin, je me disais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et en fait, ça ne collait pas avec mes valeurs fondamentales, quoi. Donc finalement, en 2015, j'ai décidé de reprendre le contrôle de ma vie et de me dire que finalement, c'était dommage, toute cette énergie que j'avais à déployer, parce que je suis un peu une addict au travail, moi, qui s'est soldée par un burn-out, en fait, à New York. Hein, c'est quelque chose que je souhaite à personne. C'est une vraie prise de conscience, quoi. D'un seul coup, on se dit, bon... La vie c'est court, on peut se retrouver en fait de partir du top à d'un seul coup même plus recevoir un texto et se dire je peux pas gérer, je ne sais plus, enfin voilà, c'est vraiment un craquage total. Et en fait j'ai décidé de prendre ce temps vraiment pour justement réfléchir, prendre du recul, et c'est vraiment cet univers des startups qui m'a accroché, et j'ai commencé à être vraiment fascinée par ça. En me disant, voilà, moi j'avais vu la grosse structure, la grosse organisation, l'excellence, la perfection, une façon de faire du business. Et voilà, et ce que je trouvais magique, c'est de se dire aujourd'hui, en fait, on n'est pas obligé de. Enfin, on peut aujourd'hui, avec les outils qui existent en 2000, enfin, dans les années 2015-20, créer quelque chose avec très peu de ressources, quoi. Et du coup, je suis rentrée à Paris. Et c'est un peu dans cette optique-là d'avancer dans ce domaine de l'écosystème, d'aller me frotter au monde des startups, que j'ai pris la décision d'aller faire la formation du Wagon à Paris, qui est un bootcamp intensif pour apprendre à coder en quelques mois. Et qui était une expérience absolument géniale. Enfin, en gros, à la fin, je sais pas si tu les connais, les gens du Wagon, mais c'est une très belle aventure aussi entrepreneuriale. Et donc ça m'a permis vraiment de mettre un peu les mains à la pâte et de découvrir le réseau un peu parisien du monde des startups. Et j'ai eu une première expérience en fait en startup à la suite de ça. J'ai bossé à Station F. Et bon, pour pas trop donner de détails forcément, mais ça a été une expérience qui a été positive. Enfin, je cherche toujours le positif des choses, dans le sens où ça m'a permis vraiment de me dire, bon, allez, Claire, ça suffit, arrête avec le salariat. Tu es un entrepreneur dans l'âme, tu n'es pas faite pour travailler pour un projet si tu n'es pas 100% en accord avec vraiment tes valeurs fondamentales, et surtout accompagnée de la personne qui va vraiment être avec qui tu vas créer quelque chose, quoi. Et finalement, c'est presque dans ce contexte-là que j'ai rencontré Caro, parce que je m'étais engagée en fait sur une autre aventure de lancement d'une marque de mode aussi. Et j'étais un peu en train de me dire, bon, on avait quand même des visions assez différentes avec les deux autres associés. Et c'est dans ce contexte, par le biais d'une relation perso, que j'ai rencontré Caro. Et là, ça a été vraiment un coup de cœur, coup de foudre immédiat. Et voilà, depuis un peu plus d'un an, j'ai l'aventure Moods, c'est notre duo.
Ouais, ok, bah trop cool. C'est assez dingue. Enfin, en fait... Ce que tu dis, je pense que ça peut aider énormément de personnes qui nous écoutent, notamment des jeunes qui sont en train d'essayer de trouver leur voie ou de se lancer dans le monde du travail, parce que enfin, tu viens un peu de démystifier l'idée que c'est avoir le job parfait sur le papier, avec le bon salaire, avec les bons noms sur le CV, parce que combien de fois j'ai entendu ça, ouais, mais au moins, après, ça m'ouvrira des portes et tout. Mais en fait, enfin, quelle est la finalité de tout ça si au final, on n'est même pas heureux, et c'est un peu ce que tu as vécu au final, et t'es pas rentré dans les détails du burn-out, mais si tu peux un peu juste nous en dire plus sur comment c'est arrivé. Qu'est-ce que tu penses tu aurais pu faire pour l'éviter, pour que les gens puissent se rendre compte que c'est bien et bien une réalité, et que parfois un beau nom sur le CV, c'est peut-être pas ce à quoi il faut aspirer.
Ouais, non mais tout à fait. Ah ouais, le burn-out, il y a tout un sujet. Déjà, je commencerai par dire c'est vraiment quelque chose que je souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Parce que je pense qu'effectivement, en France, c'est un sujet qui est de moins en moins tabou. Mais par exemple, moi, à l'époque, j'étais aux États-Unis. Contre toute attente, on pourrait se dire, pourtant le burn-out, ça a l'air d'être quelque chose d'assez anglo-saxon. Quand je parlais de burn-out, les gens me regardaient en me disant, mais de quoi elle parle, quoi. Donc déjà, je trouve que ce qui est bien en France, c'est qu'il y a quand même un tabou qui a été élevé autour du sujet et qu'on communique beaucoup plus autour. Et c'est vrai que c'est hyper important de bien comprendre ce que c'est, et surtout pour l'éviter, parce que c'est vraiment, en gros, c'est un épuisement qui est à la fois un épuisement professionnel. Enfin, il y a un côté vraiment juste pure fatigue, hein. Moi, je te laisse imaginer, j'ai commencé pendant la crise, je faisais des journées, moi j'étais au travail, mon réveil sonnait à 5h45 le matin, j'étais au travail, je me souviens la première fois quand je suis arrivée à 7h04 au travail, et je me suis dit, c'est la fin du monde, ça y est, ils vont me renvoyer, je suis en retard. Je travaillais jusqu'à 20h à l'aise tous les soirs, régulièrement le week-end, et surtout moi j'avais un rôle qui faisait que mes clients étaient un peu partout sur la planète, donc t'es esclave en fait de ton portefeuille de clients, de ce que t'as à faire, etc., etc. Et c'est juste dramatique en fait. Le burn-out, moi quand je me suis arrêtée, que je me suis dit bon stop, il faut faire une pause, j'avais l'impression d'être devenue une espèce de coquille vide, c'est-à-dire que comment tu te sens, qu'est-ce que t'aimes faire, t'as envie de faire quoi, je n'étais plus capable de répondre, quoi. Donc je pense qu'il faut être hyper vigilant, et vraiment à ceux qui nous écoutent là, il y a des choses assez simples, il y a des signaux, et quand on est dedans en général on n'est pas prêt à les voir, mais il y a des checklists quand même de choses, il faut faire attention, il faut être vigilant, et ça vaut pas la peine, quoi. Franchement, moi j'ai eu le luxe en fait de pouvoir vraiment prendre le temps derrière de me reconstruire, de financer justement la suite de ma vie comme je voulais pour faire des choix et pas refaire les mêmes erreurs. Mais c'est un sujet qui est important et il faut en parler. Et les gens qui... En fait, si j'ai un conseil, effectivement, le joli nom sur le CV, c'est top. Mais la vie, on n'en a qu'une, elle est courte. Et si on a de l'énergie à dépenser, dépensez-la pour quelque chose qui a du sens pour vous. Parce que le bottom line, l'énergie, on en a, on est jeune. Enfin voilà, moi j'étais encore jeune, j'imagine qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui sont des jeunes et qui disent « Oui, non mais c'est pas grave, je peux tirer sur la corde ». C'est pas vrai, le long terme, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est d'abord faire des choses qui sont en accord avec soi-même. Et après, oui, l'énergie, bien sûr, on est des gens passionnés avec Caro, mais nous, ça nous tient très à cœur que chez Moods, les gens aient un rythme de vie équilibré, parce que pour nous, le succès, ça vient d'avoir des gens qui sont sains et qui sont en bonne santé. Et moi, franchement, je me bats un peu contre ce truc du start-upper qui doit bosser 24 heures sur 24. C'est pas vrai, c'est pas eux les gens qui réussissent, c'est les gens qui arrivent à avoir un équilibre. Bon, alors par contre, bon, bien sûr, on bosse, hein, mais c'est important, c'est hyper important de prendre soin de soi, mais enfin, confinement, pas confinement, et la santé mentale, c'est aussi important que le reste, quoi.
Ouais, totalement. Et c'est vrai que pour le coup, le tabou sur ce sujet-là, je pense, n'est pas encore tout à fait levé en France. En tout cas, enfin, tu vois, c'est sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup plus de comptes anglophones prendre la parole sur le sujet. Et je trouve ça important, c'est vrai qu'on partage ce message parce que la glorification du surtravail n'est bénéfique pour personne, quoi. Et du coup, juste avant que Caro nous en dise un peu plus sur les débuts de Moods, est-ce que tu peux nous dire, Claire, juste pendant ce laps de temps, du coup, tu t'es un peu recentrée sur toi-même, qu'est-ce qui t'a aidé justement à y voir plus clair et à comprendre ce que tu voulais faire maintenant?
Ouais, c'est une très bonne question. Bah écoute, déjà, moi je suis assez transparente, hein, il n'y a pas de honte, mais j'avais jamais vraiment eu de suivi médical, psychologique, et pendant quelques mois, j'ai vu quelqu'un, j'étais suivie par quelqu'un pendant quelques mois aux États-Unis, et déjà ça m'a fait le plus grand bien. Je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, on parlait de tabou à nouveau. Je pense qu'en particulier en France, il y a un peu ce rapport de « Ah, si tu vas voir un psy » ou si tu... en gros, si t'es dans ce système-là, c'est que y a un truc qui va pas, c'est pas tout à fait assumé. Là, encore une fois, non, franchement, il y a pas de honte. Si vous avez une gastro, vous posez pas la question, est-ce que mon médecin va me juger quand je vais voir mon généraliste, quoi. Bon, si là, je suis à plat et j'ai besoin d'un soutien psychologique, il faut aller le chercher. Et il y a aucune honte à ça. Et je sais qu'il y a parfois, c'est une barrière mentale pour les gens, mais ça devrait pas. Et moi, je pense qu'on devrait presque tous, de temps en temps, à voir quelqu'un qui nous suit, quoi. Donc ça, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect, c'était aussi de reconnecter avec son corps, en fait. Quelque part, quand on fait un burn-out, quand on tombe dans ces excès-là, c'est-à-dire qu'on a mis toute notre énergie dans une chose et on a complètement oublié qu'en fait, on n'était pas juste des têtes flottantes et que le corps, c'était pas juste un truc pour porter les vêtements et les pensées, mais qu'on était vraiment... On est un tout, quoi. Et c'est essentiel. Donc je me suis remise à pratiquer du sport, à faire du sport très régulièrement, et ça m'a énormément aidée. Et je me suis mise à pratiquer également la méditation, qui est pour moi une pratique qui devrait quasiment être obligatoire pour tous. Je ne peux qu'encourager les gens à tenter, à essayer, parce que les bénéfices sont rapidement palpables, et c'est ça aussi qui permet en fait la première prise de recul par rapport à avoir à débroussailler finalement des années de vie où on s'est pas forcément posé les bonnes questions parce qu'on a été le bon élève, parce qu'on a suivi ce qu'on était à faire, mais où on s'interrogeait plus soi-même, quoi. Donc ça, c'est les choses. Et après, alors moi, à titre perso, moi, j'ai passé ma vie sur les TED Talks, à écouter des documentaires, à me faire les replays d'Arte, et en fait, à essayer de redécouvrir le monde, à me refaire une idée de qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce que le monde avait à offrir, et comment moi, avec finalement tout ce que j'avais acquis, sans vouloir cracher sur ma première expérience du tout, mais au contraire voir ça comme un acquis et se dire comment j'utilise ça maintenant avec cette nouvelle connaissance que j'ai de moi-même et des valeurs, et qu'est-ce qui a du sens, et quels sont les outils à développer pour la suite. Et tout ça m'a amené pas à pas, chacun de mes réussites, chacun de mes échecs m'a amené jusqu'à Caro et Moods.
Ok, écoute, ouais, c'est super que tu partages ce témoignage-là, parce que ça montre aussi que c'est un travail, quoi, et que ça arrive pas en claquant des doigts, et que on se réveille pas du jour au lendemain en sachant exactement ce qui nous attend dans la vie, donc... Donc ouais, il faut prendre ce temps et je pense que ça peut être que bénéfique, quoi. Donc merci de le rappeler. Et Caro, du coup, si tu peux nous dire maintenant, à partir du moment où tu plaques tout en octobre, déjà nous dire aussi si cette décision a été difficile à prendre ou pas, parce que j'imagine quand même que c'est pas facile de se jeter dans le bain. En fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi toujours, c'est le day one. C'est parce qu'en fait, je pense que beaucoup de gens ont du mal justement à s'imaginer ces débuts-là, parce que tout le monde se dit « je ne sais pas par où commencer, j'ai jamais fait ça avant ». Enfin, il n'y a pas de formation entrepreneuriale et j'essaye vraiment de partager ce message, de dire « mais en fait, personne ne sait ce qu'il fait. Tout ce qui est important, c'est de faire parce qu'une action en entraînera une autre ». Donc voilà, si tu peux juste nous raconter un peu ça, je pense que ça peut être vraiment intéressant.
Ouais, en fait, je pense que paradoxalement, moi, j'étais hyper contente de tout plaquer. parce que, en fait, c'était, enfin, en fait, je croyais tellement en l'idée que j'avais, etc., que en gros, je dormais mood, je mangeais mood, je vivais mood, etc. Et le fait de pouvoir enfin m'y consacrer à 100%, ça a été limite un soulagement, quoi. Et après, sur le day one, alors ça, je pense que si mes anciens employeurs l'entendaient, ils seraient pas très contents. Mais en fait, moi, j'ai commencé à travailler sur Moods quand j'étais déjà employée, enfin quand j'étais encore employée. Donc c'est-à-dire qu'en gros, j'arrivais plutôt le matin pour trouver des usines, pour regarder un peu ce qui se faisait dans les autres pays. Mais après, je sais pas, c'était plutôt d'un aspect hyper pragmatique. Quoi. Je me suis dit, ok, tu veux faire des culottes menstruelles, donc bah un, faut faire les culottes menstruelles, et deux, tu vas les vendre. Donc, il faut que tu saches un peu ce que veulent tes clients, quoi. Et donc, en fait, j'ai commencé à chercher une usine et à interroger les femmes sur ce qu'elles voulaient comme modèle, etc. Mais ça, j'étais encore en poste dans mon ancien travail. Et en fait, ça a été vraiment ça. J'ai cherché l'usine, j'ai fait des questionnaires sur Facebook où j'ai eu 3000, 4000 réponses rapidement avec des femmes qui laissaient leur mail. Et ce qui fait qu'en fait, quand j'ai commencé à travailler à temps plein sur Moods, j'avais déjà l'usine et j'avais déjà des indications sur ce que les femmes voulaient. Mais j'avais fait vraiment ça, c'était à l'arrache, quoi. J'ai fait passer un questionnaire sur Facebook où j'ai mis des photos de culottes trouvées sur internet et je leur demandais à quoi ressemble votre culotte de règles aujourd'hui, et là je devais choisir entre 6 options et à quoi voudriez-vous qu'elle ressemble. Elles avaient encore 6 options et puis là en fait j'en ai déduit que justement il y avait que mon idée de faire vraiment une marque de mode avec des beaux vêtements, des belles culottes, en fait c'était ce que les femmes voulaient, donc j'ai continué, j'ai foncé.
Ok, alors en t'entendant, j'ai presque l'impression que ça a été facile, alors que bon, moi, je suis passée par le même chemin, rien que trouver une usine, ça a été extrêmement difficile. En plus, aucune de vous deux ne vient du milieu de la mode, donc comment est-ce que tu t'y es pris? Est-ce que tu avais des exigences au niveau de la localisation de l'usine? Est-ce qu'on t'a pas un peu rigolé au nez en mode de toute façon vous allez très certainement faire des quantités qui nous intéressent pas, donc ciao? Enfin, tu vois, comment un peu ça s'est passé aussi pour, parce que c'est une réalité, malheureusement, quand t'es petit dans le milieu de la mode, t'es personne, quoi.
Ouais, non, quand t'es petit, t'es personne, et surtout quand tu dis que tu vas faire des culottes menstruelles à des mecs qui gèrent des usines, là en fait t'es même pas personne, quoi, t'es la personne de la personne, enfin, c'est-à-dire c'est, tu n'existes pas. Et là ils te disent non mais c'est quoi ce truc, c'est-à-dire que c'est quoi votre histoire de meuf de culotte menstruelle, enfin c'est, pour eux c'était inimaginable, donc en gros ouais non c'était pas simple du tout. Je pense qu'en tout j'ai appelé 300 usines, donc c'est beaucoup beaucoup d'appels. J'avais identifié des pays, moi je voulais je m'étais renseignée pour faire en France. En fait en France je me suis vite rendu compte que c'était extrêmement cher à la fabrication, ce qui induisait derrière que fallait qu'on ait un prix de vente qui était très très cher, et je voulais que nos culottes restent accessibles, parce que avec Claire on part du principe que c'est un produit entre guillemets de première nécessité, et avoir des culottes à 50-60 euros pour nous c'était inimaginable, quoi. Donc vite fait la France ça nous a paru, enfin ça m'a paru à l'époque très cher, mais je voulais quand même rester en Europe avec des matières européennes, donc je me suis dirigée vers le Portugal qui pour moi était la super alternative, parce que c'était en Europe, proche de la France, etc. Et en fait, j'ai eu, entre guillemets, parmi ces 300 usines, de la chance. Alors après, je pense que quand on contacte 300, est-ce qu'on peut appeler vraiment ça de la chance ? Je suis pas certaine. Mais j'ai trouvé, je sais même plus comment j'ai trouvé l'usine, sur Google ou je sais plus comment. Et j'ai trouvé une usine qu'on a là. Et en fait, ça a été un coup de cœur immédiat. Où c'était une usine qui était familiale, où en plus les personnes qui géraient et qui gèrent encore, parce qu'on bosse encore avec eux, la production était franco-portugaise, donc ils parlaient français, ce qui quand même était beaucoup plus simple pour moi. Et ils étaient ouverts à... Bah, c'est des gens qui étaient assez curieux, quoi. Ils se sont dit, ok, faire des culottes menstruelles, ça a l'air un peu chelou, mais pourquoi pas. Et en fait, ils m'ont donné ma chance, quoi. On a commencé, j'avais des toutes petites quantités, etc. Et au final, bah, ça a bien grandi. Mais c'est vraiment eux qui ont cru au projet directement. Et aussi, moi, j'étais directement aussi hyper impliquée. Donc, je suis allée rapidement sur place pour leur montrer que c'était pas juste, ça n'avait pas resté une petite marque, quoi, et que j'avais une vraie ambition de faire grandir. De faire grandir Mousse rapidement, et je pense que ça les a convaincus, et depuis, ils nous accompagnent depuis octobre 2018, où on a commencé à faire les protos avec eux, parce que j'avais fait déjà des protos avec d'autres usines et ça n'avait pas marché, et là, depuis, c'est devenu un partenaire hyper stratégique, et c'est super de travailler avec eux, quoi.
Ouais, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut rechercher, quoi, comme tu dis, un coup de cœur, et... Quand il y a de doute, il y a pas de doute, quoi. Je m'en suis rendu compte aussi en cherchant des usines. Et parfois, on a tellement envie d'avancer que on pense que ça va aller. En fait, non. Et la suite nous le prouve. Donc ouais, je pense que t'as gagné du temps. Claire, est-ce que tu peux nous dire aussi, je me demande, vu que vous venez pas du secteur de la mode, comment vous vous êtes répartis les missions, on va dire, le champ de compétences, vu que, bon, a priori, vu vos parcours, vous avez quand même des compétences complémentaires, mais j'imagine que c'est pas facile de se répartir les tâches quand, en fait, aucune de vous deux ne va faire ce qu'elle sait faire, ou en tout cas, ce à quoi elle a été formée.
Oui, bien sûr. En fait, je pense qu'avec Caro, c'est hyper naturel. Déjà, on a vraiment... nous, on copilote. Enfin, Mood, c'est les décisions stratégiques sur pas mal de choses. On bosse vraiment main dans la main. Après, comme tu disais, il y a un peu des choses qui naturellement tombent plus sous le set de compétences de l'une et de l'autre. Mais en tout cas, entre nous deux, c'est vrai que ça s'est toujours fait naturellement. Et je pense que c'est aussi un des succès de notre association, c'est qu'on se marche pas sur les pieds, on se fait ultra confiance et les choses se font naturellement. Alors du coup, si on découpe un petit peu, moi je m'occupe du coup plus particulièrement de tout ce qui est opérationnel, financier et administratif, étant donné comme un peu mon passé. Et ensuite la partie digitale, aujourd'hui on est avant tout, on est une DNVB, nos canaux de, que ça soit de communication, de distribution, c'est le e-shop, donc il y a énormément de choses à faire autour du digital. Donc là, moi, je passe pas mal de temps aussi sur ces aspects-là, l'aspect plus tuyau, où Caro, elle, c'est vraiment elle qui gère toute la partie contenu. Et du coup, Caro, elle s'occupe, c'est elle qui est vraiment le spécialiste de la marque chez nous. Et donc tout ce qui est brand, tout ce qui est contenu, tout ce qui est réseaux sociaux et stratégie aujourd'hui auprès des influences, des réseaux RP, c'est Caro qui pilote plutôt cette partie-là. Et moi le reste. Et en fait sur tout ce qui est produit, c'est amusant. C'est justement là où on se retrouve. On travaille un peu main dans la main, puisque moi il y a le côté un peu plus la production prévisionnelle des commandes, etc. Et Caro qui bosse sur le développement des collections avec une styliste pour le reste. Donc voilà, en gros c'est comme ça qu'on se répartit les tâches, mais on a vraiment un management qui est hyper fluide, et nous on avance vraiment à deux, quoi.
Ouais, ok, je vois. Du coup c'est... Tu soulèves un point, je me posais la question, parce que, comme vous l'aviez mentionné au début d'ailleurs, ce qui m'a interpellée, parce que j'ai testé votre culotte et j'ai actuellement mes règles, donc j'en ai une sur moi, c'est qu'elles sont vraiment belles et que ce sont vraiment des culottes. Enfin, pour avoir testé plusieurs culottes de règles, il y avait un peu ce côté couche que je peux comprendre aussi parce qu'il y a, enfin, il faut absorber le flux. Mais ça, ce qui m'a particulièrement interpellée avec les vôtres, c'est qu'elles sont légères et qu'elles sont belles et que, enfin, voilà, c'est de la lingerie, c'est pas la culotte moche du fond de tiroir qu'on sortait avant pour nos règles. Donc, je me demandais quelle avait été un peu votre, enfin, comment vous avez fait pour mettre en œuvre ce design, sachant que vous n'êtes pas styliste, et à quel moment vous avez commencé à vous entourer. Si Caroline, tu peux nous dire justement, comment ça s'est fait et comment l'équipe a grandi au fur et à mesure des mois.
Effectivement, on n'est pas styliste, donc dès le début, moi, j'ai travaillé avec une styliste en fait. C'est que je me voyais pas. Je faisais des mood boards hein, comme tout le monde. Hein, je passais mon temps sur Pinterest et sur Instagram à épingler des photos en me disant « Ah, celle-ci, elle est pas mal, celle-ci, etc., elle est bien. » En revanche, pour faire juste des culottes, il faut, d'un point de vue technique, des fiches techniques, il faut sourcer des matières, etc. Donc, c'est moi qui m'occupais de sourcer les matières, les élastiques, les parties techniques. Par contre, derrière, je travaillais avec une styliste en freelance où on co-crée en fait les modèles à deux. Et d'ailleurs, elle me conseillait sur les matières à utiliser. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, on se faisait des meetings le samedi. Moi, j'arrivais avec 4 lycras. Et elle me disait, OK, Caro, celui-là, je pense qu'il est bien. Celui-là, je pense qu'il n'est pas bien, etc. Et ce qui m'a permis, en fait, d'apprendre avec elle. Parce qu'au début, moi, je me souviens, j'étais allée en septembre 2018, j'étais à la première vision. Et là, je me balais dans les couloirs. Enfin, première vision, pour ceux qui ne sont jamais allés, c'est des espèces de... Un énorme forum où il y a tous les fournisseurs de tissus européens et au monde, et on me disait c'est un peu cliché, mais genre regardez, cette matière là est bien, etc. Et je dis oui elle est bien, mais en fait j'en avais aucune idée de ce qu'il fallait pour les culottes, quoi. C'est-à-dire que je me disais elle est pas mal, après ils m'ont fait tester un autre, je touchais, je voyais à peine la différence, enfin. Et en fait, de bosser avec nos stylistes, c'était vraiment ça m'a permis d'apprendre, quoi. Et maintenant avec Claire, on sait dire, OK, ce tissu-là, il est bien, ce tissu-là, il n'est pas bien. Et ce qui fait qu'on a appris, on a un peu appris sur le tas en s'entourant. Et je pense que c'est ça qui est clé, c'est qu'avec Claire, on a forcément des compétences qui nous sont propres. Mais je pense que ce qui est important, c'est de vraiment s'entourer quand on ne sait pas, notamment quand c'est technique. Et faire une culotte, c'est technique en fait. Moi, j'ai pas fait d'école de mode, j'ai pas fait d'école d'ingénierie textile, donc c'est pour ça que dès le début, je me suis dit, OK, t'as besoin de quelqu'un, et c'est ça qui nous a permis d'avoir des super moods actuellement, quoi.
Alors, en fait, en gros, là, aujourd'hui, nous, l'équipe, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que nous, jusqu'en décembre, on était encore que 3. Donc, tout ce qu'on a monté, tout ce que les clientes portent, etc., ça a été fait sur une petite équipe très réduite. Là, depuis le début de l'année, on est passé à 6. Donc, on a 4 stagiaires qui sont full-time avec nous. Et on travaille aussi avec un certain nombre de freelances qui sont justement ces gens qui viennent augmenter les ressources de Moods. Et là, aujourd'hui, alors malgré la crise, nous, on est quand même dans une situation qui est plutôt saine et qui continue à être en croissance. Et donc là, on est très activement, en fait, en train de recruter pour les prochains mois. Alors, d'une part, parce qu'il y a certaines des membres de notre équipe qu'on adore et qu'on aimerait garder parce qu'on a vraiment une équipe formidable en ce moment, mais il y en a certaines qui doivent reprendre leurs études, etc., etc. Donc on cherche un peu les prochaines superstars et on est vraiment en train de faire grandir l'équipe. D'ici la fin de l'année, on pense qu'on sera au moins le double.
Donc en fait, ça fait un peu plus d'un an et demi que vous travaillez sur Moods. J'imagine qu'il n'y a pas eu que des beaux moments parce que on se rend pas toujours compte des galères qu'il peut y avoir dans un parcours entrepreneurial et dans une marque. Si Caroline, tu peux nous en dire un peu plus peut-être sur des moments difficiles que vous avez vécu et comment vous en êtes relevé, parce que je trouve ça toujours important de parler aussi de ce qui va pas et en fait généralement on se rend compte qu'on en ressort plus fort, ou en tout cas la résilience, quoi, est toujours bonne à prendre. Donc, si tu peux nous parler un peu peut-être de moments difficiles qui sont passés tout au cours de ces 2 dernières années.
Pour moi, il y a vraiment 2 moments qui ont été particulièrement durs. Quand moi, j'étais encore solo, etc., en fait, j'avais essayé déjà de m'associer avec une autre personne. Ça n'avait pas du tout marché. Et donc, je lui avais dit, écoute, je suis désolée, mais en fait, moi, je ne me vois pas... continuer, quoi. Donc c'était un peu un break-up professionnel, j'étais assez touchée. Et en fait, je vais à l'usine, première visite à l'usine, etc. J'avais trouvé un super tissu qui était beaucoup plus absorbant que ce qu'il y avait sur le marché. C'était un peu la révolution, quoi. Et en fait, j'arrive et là, la personne avec qui on travaille monte les culottes. Et en fait, ils n'avaient pas envoyé le bon tissu. Et c'était pas du tout le bon tissu. Donc ce qui fait que la prod pouvait pas être lancée, quoi. Donc je repars et je me dis bon, vas-y, c'est pas grave. Moi, ce que j'avais fait, c'est vu que j'étais un peu parano de la production, en fait j'avais trouvé des plans B sur chaque tissu. Donc sur chaque tissu de la partie technique, j'avais un plan B, sur chaque élastique, etc., j'avais un plan B. Et là je repars et je me dis bon, vas-y, ça va décaler de une semaine, c'est pas très grave. Et je rentre à l'appart et je commence à laver les culottes pour savoir si tout tient bien, tu vois. Ça, c'est mon côté encore un peu parano. Je me dis ok, lave-les 10 fois, donc je fais 10-15 machines, et là je sors les culottes et je me rends compte en fait que l'élastique il casse, quoi. Et j'étais toute seule et tout, et je me disais mais c'est pas possible, tu vas jamais sortir tes culottes, ça va pas du tout aller. Et là mon petit ami de l'époque Rand fait une blague, et là je commence vraiment mais à pleurer, mais vraiment à pleurer, à m'effondrer, quoi, de stress, de fatigue. Et je le revois encore, lui, en mode mais pourquoi tu pleures comme ça, j'étais genre j'en peux plus, j'en ai marre. Et je pense que c'est vraiment le côté faut que je lance, et en fait tout qui où j'avais que des problèmes, quoi. C'est-à-dire que j'étais toute seule, ma partie technique, mes fournisseurs s'étaient trompés d'épaisseur, donc très clairement c'était plus épais qu'une couche Pampers. J'avais un élastique qui tenait pas, c'était l'enfer. Et ça, c'était vraiment hyper dur parce que je voyais, entre guillemets, ça marchait aussi concurrentiel, et je voyais de plus en plus de marques arriver. Et je me disais, moi je vais sortir en 2030, quoi. Donc ça, c'était compliqué. Et après, avec Claire, je pense que Claire se souvient du fameux moment UPS, où en gros, à l'époque, on était trois, il y avait Claire, moi et une stagiaire qui était toute junior, c'était son premier stage, etc. Et en fait, on devait recevoir parce qu'à l'époque, on faisait les colis toute seule avec Claire, et on devait recevoir les culottes, on les recevait en retard, etc. Et en fait, là, on se rend compte que l'usine n'a pas envoyé le colis à la bonne adresse. Donc, qui sont trompés d'appart, etc. Donc, je dis à Claire, non, mais t'inquiète, pas de soucis, je vais à mon ancien appart et j'attends le camion devant l'appart, quoi. Je me tape une petite mission, etc. Sauf qu'en fait, j'appelle UPS et je me rends compte qu'en gros, le camion est passé 5 minutes avant que j'arrive. Et là, je rappelle UPS, ils me disent, attends, dans tous les cas, votre colis, c'est mort, vous l'aurez pas, quoi. Sauf qu'en fait, derrière, ce qu'ils savaient pas, c'est que nous, on lançait le crowdfunding 3 jours plus tard, et qu'il fallait qu'on donne des culottes à des créatrices de contenu sur Instagram pour lancer un peu la machine, quoi. Et que sans ce colis-là, en fait, toute notre campagne allait tomber à l'eau. Et donc là, je commence à appeler UPS et ils me disent non, mais c'est mort, vous l'aurez pas, donc on se tape mais si vous voulez, vous pouvez venir le chercher au hangar. Donc ni une ni deux, avec Claire, on prend la voiture, on se tape un énorme aller à Charente, jusqu'à Charenton ou je ne sais où. Enfin, à côté de Paris. Et en gros, on arrive, nous disons, en fait, on a que un colis sur deux. Dans le colis qu'il avait, il n'y avait pas les bonnes culottes. Et finalement, fin de l'histoire, on rentre chez Claire, il était 22h. Et là, on ouvre le colis. Et en fait, c'était le bon colis. Donc, on avait toutes les culottes. Et je lui dis, bon, vas-y, donc en fait, on a fait la tournée des. Enfin, on avait distribué les culottes à ce moment-là des créateurs de contenu. Et c'est comme ça que la campagne de crowdfunding a pu commencer et a bien marché, quoi.
Ah ouais, putain, j'avoue, ça, c'est vraiment les montagnes russes, quoi.
Ouais, et on était en mode, non, mais... Enfin, c'est un peu long et tout, mais vraiment, c'était... Je crois que j'avais passé autant de temps de ma vie avec UPS, et je me suis dit, en fait, ça fait 4 mois que je travaille sur une campagne de crowdfunding, et tout va, entre guillemets, capoter, parce qu'on n'aura pas le colis, quoi. Et en fait, grande surprise, on rentre à 2h chez Claire, on ouvre, et c'était le bon colis.
Ah ouais, tu dois déborder de joie, alors que 2 heures avant, t'étais au bout de ta vie, quoi. Mais il a soulevé un point aussi qui est important, parce que c'est vrai que ça devient un milieu de plus en plus concurrentiel. Le marché des culottes de règles, il y a quand même pas mal de marques qui se sont développées ces dernières années. Claire, peut-être si tu peux nous en dire plus sur comment vous faites pour essayer de vous démarquer et pour sortir votre épingle du jeu, parce que ça doit pas être facile, quoi, de voir toutes ces marques émerger et de continuer à montrer que vous avez quelque chose en plus, quoi.
Ouais, bien sûr. Bah, juste avant, je rebondis sur la question précédente. Et en termes de choses qui n'étaient pas prévues dans le BP, je rajouterais à la liste de nos histoires d'horreur le coronavirus quand même. Hein. Enfin, ça, je pense que
c'est vrai. Ouais, c'est vrai.
Exactement. Sur la concurrence, moi, le premier chiffre que je cite déjà, c'est 16 millions. 16 millions, c'est le nombre de Françaises en âge d'avoir leurs règles. Et c'est un marché qui est énorme. Donc de toute façon, je pense que c'est tout à fait normal qu'il y ait beaucoup de marques qui se lancent sur un marché qui est une profondeur quand même assez importante. Et voilà. Donc déjà, enfin, c'est toujours pour remettre un petit peu en perspective le fait que ça soit très concurrentiel. Ça reste finalement assez peu concurrentiel par rapport à la taille du marché. Le fait que ça soit très concurrentiel, pour moi, c'est hyper sain en fait. C'est un produit qui est quand même relativement nouveau. Il y a les pionnières qui sont arrivées il y a quelques années et qui ont commencé à un peu évangéliser, éduquer le marché. Là, c'est vrai que nous, aujourd'hui, on dit un peu en rigolant chez Mood, quand on parle de la culotte menstruelle, on dit que c'est un peu la trottinette de la culotte, puisque toutes les semaines, il y a une nouvelle marque qui se lance. Nous, on voit vraiment quelque chose comme ça, comme quelque chose d'ultra positif. Avant tout, je pense qu'on est toutes des entrepreneurs qui avons quand même à cœur de se battre pour un certain nombre de valeurs, d'une évolution de la société, de briser des tabous, de rendre la vie des femmes plus agréable pendant leurs règles également. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est avant tout positif, qui est de plus en plus de gens qui se mobilisent autour de ce sujet, qui aillent, qui évangélisent, qui éduquent, que vraiment, les femmes, finalement, l'objectif, c'est que les femmes aient une alternative qui soit saine et écologique, et en plus, qui soit sympa et qu'elles aient envie d'en parler. Après, forcément, on est quand même dans un milieu où on est obligé de regarder un peu ce qui se passe à droite, à gauche, mais de façon générale, Caro et moi, on est hyper focus, en fait, c'est-à-dire qu'on regarde pas vraiment et on essaye de se dire comment est-ce que nous, c'est quoi notre ADN, c'est quoi les messages, et de le faire avec notre style, et c'est je pense, ça, quelque chose qui fonctionne très bien, c'est cette honnêteté, cette transparence qu'on a dans notre communication, c'est justement cette passion qu'on a d'avoir le produit qui soit le plus confortable et le plus techniquement performant possible, mais tout en gardant ce côté vraiment lingerie. Et c'est-à-dire que nous, on essaie vraiment de se détacher du côté vraiment pure protection hygiénique et se dire non, nous, on est avant tout une marque de lingerie, une marque de mode, et on est une marque engagée, et voilà, nous, on gagne quand même nos clientes nous disent moi, en fait, ta lingerie, je la porte même quand j'ai pas mes règles, parce que c'est avant tout une culotte qui est stylée, qui est confort, et voilà quoi. Donc vraiment, la concurrence pour nous, c'est quelque chose, c'est un moteur, ouais. et je pense qu'on va tous dans le même sens.
Ouais, non, mais c'est hyper important. C'est vrai que je pense qu'on peut facilement se perdre à... Genre, en tout cas, je connais des marques quoi qui regardent tout le temps ce que font les autres et même les stratégies réseaux sociaux, qui essayent de faire pareil, etc. Et je pense qu'au final, c'est très dangereux parce qu'on se perd. Parce que en fait, enfin, comme tu l'as si bien dit, si toi tu sais pourquoi tu fais les choses et que tu sais quel message t'as envie de partager, t'as pas vraiment besoin de savoir celui des autres vu que t'es porté par le tien quoi. Et c'est vrai que je pense que ça peut tuer plus que ça ne peut aider quoi, de regarder tout le temps ce que font les autres. Donc, très bel enseignement. Et c'est d'ailleurs une question que j'avais envie de vous poser à tous les deux avant de vous poser la question signature du podcast. Mais c'est si vous pouvez nous dire, avec le recul de tous ces mois déjà qui se sont écoulés depuis la première campagne de crowdfunding et même avant, depuis le début, quels enseignements vous pensez avoir tirés de cette aventure entrepreneuriale? Enfin, en tout cas, si vous pouviez vous dire... deux, trois leçons quoi, et remonter le temps et avant de commencer cette aventure, enfin, qu'est-ce que vous vous diriez qui pourrait aider d'ailleurs les entrepreneurs ou les aspirants entrepreneurs qui nous écoutent?
Moi, je ça va peut-être paraître pas très humble, mais je dirais de pas trop écouter les autres. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à travailler sur Mood, j'en parlais à mes potes, j'en parlais à la boss de mon ancienne boîte, et elle me disait « Mais Caro, t'es toute seule, tu vas jamais réussir, c'est mort, c'est trop compliqué. » Et en fait, moi, je me disais « Ok, je suis solo, en fait, ce projet, j'ai envie de le faire, j'y crois vraiment, donc j'ai deux choix, soit j'y vais solo et je trouve quelqu'un, soit j'y vais pas. » Et j'y suis allée et franchement je regrette absolument pas. Enfin, genre, je suis trop trop contente d'avoir fait ce choix-là. Mais si j'avais écouté un peu les autres, je pense que j'y serais. Enfin, je pense que j'aurais pas monté Moods, quoi, parce que je me serais dit oh là, ça va être trop dur, c'est horrible, je vais être toute seule. Et alors qu'en fait, bah voilà, je me suis fait confiance et c'est ça qui a marché. Après, je dirais que faut pas trop se mettre la pression entre guillemets. Donc ça, c'est facile à dire parce qu'on se la met quand même beaucoup au quotidien, mais qu'en fait, on a vraiment rien à perdre dans le sens où. Alors moi, j'ai eu la chance bah, d'avoir le chômage pendant 2 ans, donc ce qui fait que c'est quand même. Enfin, on le dit pas assez souvent, mais c'est quand même un luxe français hein, de pouvoir monter sa boîte tout en ayant le chômage. Donc ce qui fait que en fait, au pire, tu tentes ta chance. T'as quoi, t'as un an et demi, ça marche pas, tu retrouves un travail, et dans tous les cas, en fait, l'expérience que t'auras faite, elle aura été hyper positive, et elle te servira pour retrouver un taf après, quoi. Donc là-dessus, en fait, on n'a rien à perdre, et même si vous vous dites, ouais, mais qu'est-ce que d'autres vont penser, mais on s'en fout, en fait, de ce que les autres pensent, parce que je pense qu'ils, ils ont pas essayé. Donc même si derrière, tu vois, il y en a qui disent, ouais, mais si je rate, en fait, on s'en fout que tu rates. Et si t'essaies, bah, t'as une chance de réussir, tu vois. Donc il y a ça, et après je me dirais stay focus, reste concentré sur toi-même, regarde pas trop ce qui se passe autour, parce que c'est vrai que bah, on me dit que c'est un milieu concurrentiel, et que quand moi j'ai commencé et que j'ai vu qu'il y avait plein de marques qui se créaient, je me suis dit oh là là, c'est horrible, etc. En fait, comme disait Claire, moi je trouve ça maintenant hyper positif, et ouais, reste concentré et ça va aller, quoi. C'est pas parce que effectivement c'est les montagnes russes, comme disait Claire, la pandémie n'était pas prévue au business plan de Moods, hein. Enfin, faut quand même se l'avouer, mais en fait on rebondit. Et c'est ça qui fait derrière que bah, les victoires sont encore plus belles, quoi. C'est de se dire que t'as un peu galéré et que derrière ça marche. Donc voilà, ça serait mes petits enseignements.
Ok, trop cool. Bah, Claire, à toi si tu veux nous dire les enseignements que t'as tirés de ces 2 dernières années.
Ouais, c'est une bonne question. Je dois t'avouer que du coup j'en profite un peu pour me dire quels sont les enseignements de ces dernières années. Moi, je pense qu'effectivement, c'est pour les entrepreneurs qui statent ou qui savent pas trop, c'est de toute façon, c'est effectivement, soyez vous-même. Je pense qu'on peut pas se tromper, en fait. J'ai quelqu'un qui me répétait, il n'y a rien de plus simple que la vérité. Et c'est vrai que c'est parfois difficile, c'est des moments de questionnement, on se remet en cause. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir aller chercher effectivement des réponses, des conseils autour de soi. Et ça, je pense que c'est important. C'est important de savoir poser des questions, de parler, etc. Mais dans le fond, ayez confiance en votre instinct, en fait. Suivez votre instinct et écoutez vraiment, c'est follow your guts, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose quand même de très passionnel dans l'entrepreneuriat, et il faut avoir un minimum un peu, ouais, confiance en ce qu'on est en train d'essayer de construire, et ça, je pense que c'est très important. Je pense que la deuxième leçon, c'est peut-être aussi de se dire, il faut aussi connaître ses... Il faut connaître ses faiblesses et avec humilité, et justement pour savoir s'entourer, c'est un point que faisait Caro aussi plutôt dans la discussion. Et donc ouais, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, pas laisser son ego de côté en se disant bah voilà, là c'est pas moi qui vais être la plus forte, il faut que j'aille chercher quelqu'un d'autre qui va être plus fort que ça. C'est on en sera plus tous plus forts collectivement, et donc ça rejoint un peu mon troisième point qui est c'est hyper important de savoir comment on s'entoure, en fait, et les gens qu'on recrute, les gens qu'on embarque dans l'aventure, c'est ça, si tôt dans le process, c'est ça aussi qui va faire la différence entre un business qui fonctionne et qui ne fonctionne pas. On en revient à l'humain et on en revient vraiment aux gens, et ça peut être les gens qu'on recrute, les partenaires, les types de médias, la façon de communiquer, et voilà. Et c'est toujours finalement, ça en revient à de l'intégrité, de la confiance. Parfois, ouais, c'est dur, parfois on perd complètement en confiance, mais si on a ces éléments-là autour de nous, bah, ça permet d'avancer, d'avancer vite, hein, et de vraiment de faire des belles choses. Et c'est ça qui est absolument génial dans l'entrepreneuriat, en fait.
Super, bon bah on a de belles leçons et de beaux enseignements. J'aime toujours cette question parce que j'ai l'impression qu'on grandit sans avoir forcément à passer par les difficultés, quoi, qui en sont venues à ces réalisations. Donc merci à toutes les deux. Je vais vous poser la dernière question, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour vous prendre le pouvoir de sa vie ?
Ah bah écoute, moi je peux te dire, je peux te, enfin vraiment, c'est presque, je peux cristalliser ce moment quoi. Moi le jour où j'ai décidé de démissionner de chez Goldman Sachs, je me suis dit ce jour-là pour la première fois de ma vie, j'ai pris le contrôle de ma vie quoi. Et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire justement ça. C'était que j'allais plus être en train d'essayer de satisfaire A, B, C, D, E, Y, etc. Mais d'avoir le courage d'être qui je suis. Et de décider qu'en fait tout le reste c'était superficiel et que les barrières qu'on avait la plupart du temps on se les mettait soi-même et qu'il fallait avoir le courage de défoncer ces barrières soi-même quoi. Mais moi ça a été très symbolique, c'est le jour où j'ai démissionné de Goldman.
Ok, super. Bon bah Caro, à toi de nous dire.
Ah mais que puis-je dire après une si belle réponse. mais moi je pense que j'ai pas eu de moment entre guillemets symbolique. Ça a été beaucoup plus dans la continuité et dans l'évolution progressive, mais moi je pense que c'est lié beaucoup à la liberté et je pense qu'il y a aussi une liberté de déplaire, c'est-à-dire que toi quand Claire disait ouais j'avais plus envie de satisfaire les autres, pour moi c'est ça, prendre le contrôle de sa vie, c'est-à-dire en fait c'est ce que j'ai envie de faire et si vous aimez pas tant pis quoi, je m'en fous, c'est-à-dire ça vient aussi pour la marque, parce que tout à l'heure on me disait ouais c'est quoi ton un bon conseil, c'est-à-dire que faites des choses qui plaisent pas aux gens, en fait. C'est parce que si ça plaît aux gens, si ça plaît pas aux gens, mais ça veut dire qu'il y a d'autres, il y a des personnes qui vont adorer, et c'est ces personnes-là qui vont vous permettre d'évoluer. Et c'est ça, moi, prendre le contrôle de sa vie, c'est de se dire, bah en fait, je fais ce que je veux, ce que vous pensez, je m'en fous. Et je suis en phase avec moi-même, quoi, et ne pas avoir peur de déplaire. Et je pense que quand on se dit ouais bah en fait ça ce qu'ils font, enfin ce que je fais bah un tel ou un tel n'aime pas ou etc et qu'on s'en fout, là c'est que t'es bien quoi, parce que tu fais vraiment ce que tu veux et t'es libre.
Ouais, se détacher du regard des autres, je pense que c'est une grande libération. Super, bah écoutez, merci beaucoup pour votre partage et pour vos témoignages qui je pense vont inspirer beaucoup d'auditeurs. Si vous pouvez nous dire pour là toutes les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur Moods, qui veulent aller découvrir vos culottes, on les redirige sur le e-shop j'imagine
ou sur l'Insta où c'est Moods _underwear.
Super, merci, bah, je mettrai tout ça dans les notes du podcast et aussi Claire et Caroline ont eu la gentillesse de vous proposer moins 10% sur tout le e-shop de Moods, donc voilà, vous pouvez en profiter. Si jamais les filles vous avez un dernier message à partager à nos auditeurs et à nos auditrices, c'est le moment.
Bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés, nous c'était vraiment un plaisir de vous raconter un peu l'histoire Moods et si vous testez nos culottes n'hésitez pas à nous faire un petit retour parce que on crée vraiment tout les modèles avec la communauté et nous ça nous aide à avoir toujours des culottes qui soient plus stylées, plus confo, etc. Donc n'hésitez pas à nous faire un retour et on vous attend sur nos réseaux. Ciao.
Trop cool, merci beaucoup les filles, prenez soin de vous et à très vite. Merci de vous être rejoint à notre conversation avec Claire et Caroline, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post sur Instagram en nous taguant @moods_underwear et @mybetterself pour qu'on puisse le voir et échanger avec vous. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode à un ou une amie qu'il pourrait inspirer. Je sais que je l'ai personnellement envoyé à une de mes meilleures amies qui compte s'orienter vers un chemin classique et conforme aux attentes de ses parents et de la société, plutôt que de faire ce qui la passionne vraiment. Mais j'ai bon espoir qu'à force d'écouter des podcasts, elle finisse par réaliser que le bonheur, ça passe avant le regard des autres. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'InPower.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.